Et d'autant plus que le cours d'aujourd'hui, eh bien, me, comment dire, me met énormément de pression. Me met énormément de pression. Je suis, je suis pas serein. Pourquoi pas serein? Parce que nous allons nous attaquer aujourd'hui à un gros morceau du début du 19e siècle, puisque c'est là où on est arrivé dans notre retour sur l'histoire de la Kabbalah. Mais je ne suis pas serein parce que je pense qu'on a quand même une grande majorité de gens qui nous écoutent qui sont, même si David va sauter sur ses grands chevaux, et Félicia aussi, et d'autres peut-être, mais on a quand même une grande majorité de gens qui sont des séfaradim parmi les gens qui nous écoutent. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer aux Chachmé Maghreb, aux sages du Maghreb. Et donc, je me dis, est-ce que je vais pas, moi, l'Ashkénaze, me faire fustiger? Alors que, en fait, j'ai déjà parlé de plein de Sfaradim. Mais j'ai l'impression que quand on va toucher au sacro-saint du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, si je dis un mot de travers, je risque de me faire foudroyer sur place. Voilà, tu vois, déjà on a. Hey, t'as vu ce qui s'est passé? On n'a rien fait, il s'est rien passé. Un mec, il a dit, Rabbi Chaïtaïb Lomet. De où, comme ça. Alors les amis, avant de parler sur les personnages qu'on va évoquer, donc on a parlé vite fait de Rabbi Chaim Taïeb Lomet la semaine dernière. Le problème qu'on a par exemple avec Rabbeinu Chaim Taïeb, c'est qu'on ne sait pratiquement rien de lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement aucune trace écrite de ce qu'il a fait et tout est du bouche à oreille. On a énormément de traditions sur les miracles qu'a pu faire Rabbeinu Chaim Taïeb, mais c'est dur de baser tout un enseignement quand on ne sait pas de quoi, de qui, de quand, de pourquoi. Donc ça va être un problème, mais on va voir que ce n'est pas du tout un problème qui est récurrent. Alors, je rentre tout de suite dans le vif du sujet, et pour parler de Chachmé Mahlav, Ma'arav, eh bien justement, il faut qu'on comprenne qu'il s'agit de Chachmé Ma'arav. Ce qui veut dire que les Sfaradim n'ont absolument rien à voir avec Chachmé et d'autres Mizrach. Et ça, c'est très important. Certes, les premières influences, les premières influences du monde séfarade il y a 1000 ans, quand je parle du monde séfarade, je parle de la période de cette partie du Maghreb. Les premières influences des Juifs au Maghreb viennent des Géonim, de Géoné Bavel, donc oui, de Edot HaMizrach. Mais c'était il y a 1000 ans. Et depuis lors, les Chachamim du Maghreb, et particulièrement, et là je vais dire un truc qui est très contre-intuitif, et particulièrement les Chachamim d'Algérie. Alors évidemment, ça ne s'appelait pas forcément l'Algérie à l'époque. On sait bien que le pays qui s'appelle Algérie, il est très récent, mais de cette région du monde, donc Chachmé Algir, Chachmé Tlemcen, Chachmé même Constantine, eh bien les amis, comprenez bien qu'il y a un Retsef rabbani, il y a une continuité rabbinique depuis les Géonim jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est très rare d'avoir des communautés où on peut mettre le doigt génération après génération sur les rabbanim des communautés. C'est vrai au Maroc, c'est vrai en Tunisie, mais c'est encore plus vrai en Algérie. Pourquoi je dis que c'est contre-intuitif? Parce que très souvent, de manière un petit peu péjorative, on dit les Algériens, ils n'avaient pas de rabbin, c'était tous des Français, et tatata, et tatata, et tatata. Sauf que ça, c'est à la limite un débat qu'on pourrait avoir. Mais que, à la fin du 19e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé entre le 10e siècle et la fin du 19e siècle? Les Français, ils n'étaient pas là à ce moment-là. Bekitsour, Chachmé Sfarad. Alors, Chachmé Maharav, les sages du Maghreb, qu'on parle de l'Algérie, de la Tunisie, le Maroc, là, je vais tout mettre dans un groupe. Eh bien, ce sont des Chachamim, comme ils ont une continuité et donc une tradition qui suit de génération en génération, eh bien, la première chose qu'il faut bien expliquer par rapport à cette tradition, c'est qu'elle est stable. Ça veut dire quoi, elle est stable? Ça veut dire qu'un rabbin qui sait d'où il vient, il sait également où il va. Et donc, il y a dans la psyka, dans la façon d'étudier la Torah, dans l'enseignement de la Torah, dans le monde du Maghreb, eh bien, il y a un calme absolu. Et la halakha n'est absolument pas ballottée au gré du vent de tel ou tel rabbin qui aurait dit un truc dans un autre endroit du monde. Je commence avec une phrase. On ne va pas évoquer ce personnage aujourd'hui parce que c'est un peu plus tard qu'on y arrivera. C'est la fin du 19e et début du 20e. Mais un rave comme par exemple Rabbi Yosef Messas. Rabbi Yosef Messas, il n'y a pas besoin de le présenter. En arrivant en Israël, il est devenu le grand rabbin de Haïfa. Rabbi Yosef Messas, il a une phrase. Et j'aimerais simplement citer cette phrase pour qu'on comprenne qu'en fait, on s'en fiche. Alors, pour l'instant, on ne parle pas de la Turquie. Ah, Khaverim, là, on a dit aujourd'hui, c'est le Maghreb. On ne peut pas tout mélanger. Mais Kitzour, Rabbi Yosef Messas, il y a un homme qui vient le voir et qui lui pose la question par rapport au Hallel à Yom HaAtzmaout. Et Rabbi Yosef Messas répond en une phrase. Il dit, Ata Sefaradi Chared. C'est-à-dire, tu es un Sfarad, Chared, ça veut dire Charedi le Dvar Hashem. Tu veux faire ce que Dieu il veut. Donc, Ata Sfaradi Chared. Assez, comment chez Anachno Osim. Fais ce qu'on fait, nous les Sfaradim. Gomrim et Ahalel im Bracha, Balaila ou Bayom. On fait le Hallel avec la bracha le soir et le matin, ve'en lanu esek im acherim. Et on s'en fiche de ce que pensent les autres. Mais cette phrase-là, Rabotai, elle est tellement symbolique de la Torah de Chachmé Amar. On s'en fiche de ce que pensent les autres. On a une tradition, on a une Torah qui est extrêmement riche. On n'a pas besoin de se dire que parce qu'il y a un autre rabbin qui ne pense pas comme nous, c'est forcément lui qui a raison. OK? Par exemple, si on parle d'un des grands chachamim algérien, un des premiers d'ailleurs, c'était Rabbeinu, là aussi je vais m'attirer les foudres des Marocains, c'était Rabbeinu Yitzhak El Fassi. Parce que vous allez me dire, mais c'est pas possible, El Fassi, les Marocains, Fès, qu'est-ce que tu me racontes? Quel a mal à la sorte qu'il a enseigné toute sa vie en Algérie. C'est-à-dire qu'il est peut-être né de famille qui venait plus de la région de Fès, mais lui, il était Chacham algérien. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est de Rabbeinu Yitzhak El Fassi, à propos de la question, je donne un exemple, à propos de la question de savoir est-ce qu'on peut sonner le shofar quand il tombe, quand Rosh Hashanah tombe Shabbat, Rabbeinu Yitzhak El Fassi, il dit, Bebet din shel gdol ador, on a le droit de sonner. Là où il y a le Bet Din du Gdol Hador, on a le droit de sonner pendant Shabbat. Donc, Rabbeinu Yitzhak El Fassi, il sonnait pendant Shabbat. Parce qu'il disait, c'est moi Gdol Hador. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à tergiverser. Donc, Rabbeinu, quand on parle de la Torah du Maghreb, on parle d'une Torah qui est extrêmement sûre d'elle. Pas dans le sens, les autres, ils ont forcément tort. C'est pas ça. C'est nous, on n'a pas forcément tort non plus. OK? Nous, on a une tradition qui remonte à des années, des années, des années, et il n'y a pas de raison de sortir de nos minagim. Je vais donner un autre exemple de minag, et après, on rentrera dans nos personnages. Mais un autre exemple de minag de Torah, Chachmé, à Sefaradim, c'est que, d'après l'avis du Rambam d'ailleurs, on ne fait pas de Chazarat HaShatz Beyom Chol. Pas de Chazara. Que Chachmé Maharav, eh bien, il priait une seule Amida. À voix basse, et on disait à voix haute la Kedusha, Modim de Rabbanan, Birkat Kohanim, Vezeo. Pas de Chazara. Ah, tu dis ça à un Ashkenaz, il va te sauter dessus. Mais c'était comme ça, la psyka des Sfaradim, jusqu'à ce que le Rav Ovadia s'en mêle. Maintenant, moi, j'ai entendu plusieurs fois, vous pouvez lui demander, mais moi, j'ai entendu plusieurs fois le Rav Cherki dire halakha lemaaseh à des Sfaradim que si vous êtes dans une communauté où vous voyez que ça parle pendant la Chazarat Hashatz, annulez la Chazarat Hashatz. Et vous n'allez absolument pas changer la Torah, au contraire, vous allez vous rattacher à un très vieux minhag. Alors, les amis, nous, on n'est pas là pour faire un historique général des différents minhagim. Nous, on est là pour l'enseignement de Torah Takabbalah. Qu'en est-il de Torah Takabbalah au Maroc, en Algérie, en Tunisie? Est-ce qu'on a une tradition de Torah Takabbalah? Atshuvaï bevadaï. Bevadaï. Bevadaï, mais vous vous rappelez qu'on a déjà souvent évoqué que Gdolé Amekoubalim, les grands sages de la Kabbalah, étaient également dans toutes les générations les grands sages de la Halakha. Depuis quand peut-on parler des sages du Maghreb? La Torah du Maghreb est influencée par la venue des Chachamim d'Espagne. Alors, Shuv, Vashuv, Vashuv, Lonachon, Velonachon. C'est-à-dire, depuis quand peut-on parler de la Torah du Maghreb? Je l'ai dit, on parle de ça depuis 1000 ans. Depuis 1000 ans. Donc, non, la Torah du Maghreb n'est pas une Torah qui a été influencée par l'arrivée des sages d'Espagne après l'expulsion des Juifs d'Espagne. Oui, il y a eu des rabbinim qui sont partis d'Espagne et qui sont arrivés au Maghreb. Bien sûr. Et ils ont essayé de mettre leurs pattes aussi. Bien sûr. Mais, Khalila de penser qu'ils sont arrivés et qu'il n'y avait personne au Maghreb et qu'ils sont arrivés dans des communautés vides de Torah. Khalila. De la même façon, quand on vient et qu'on dit non, mais il y a plein de Marocains qui ont des minhagim qui ressemblent aux Ashkénazes, c'est parce que Rabbeinu HaRosh, Rabbi Asher ben Rabbi Yechiel, il est arrivé au Maroc et donc il a influencé tout le monde. C'est Nachon qu'il est arrivé au Maroc et c'est Nachon qu'il était très grand, mais c'est Nachon aussi que quand il est arrivé, il y avait déjà des minhagim qui ressemblaient beaucoup. Pourquoi? Eh bien, parce que les Chachamim du Maghreb n'ont jamais été fermés dans leur communication avec les autres rabbins. Et donc, ben, on a pu échanger entre les Chachamim du Maghreb et les Chachmé Provence, par exemple, énormément. Et donc, il n'y a pas du tout de problème que des fois, on ait des minhagim qui se ressemblent, parce que c'est comme ça. Et qu'il n'y a pas de problème. Par exemple, aujourd'hui, tous les Chachamim, tous les rabbins qui parle avec un accent un peu séfarade, ils te disent qu'il faut manger basahalak. D'accord, il faut manger basahalak. Manger basahalak. C'est marqué en shukhanaour. Donc, t'es obligé de manger halak. Et si tu manges pas halak, tu manges pas kasher. Aval, en Afrique du Nord, on mangeait pas halak. Témoigne le Rav Meir Yehuda Getz, dont évidemment on parlera, mais plus tard, parce que c'est le XXe siècle, mais témoigne le Rav Getz que lorsqu'il a étudié les lois de Kashrout, quand il était jeune, et qu'il arrive sur le sujet de Halak, il voit ce qu'il y a marqué dans le Shulchan Aruch, tout ça, il vient voir ses rabbanim, il leur dit, mais on mange pas kasher. Et les Chachamim de Tunis lui disent, mais enfin, avant Rabbi Yosef Karo, on mangeait pas de viande dans le peuple juif. On mangeait. Plasma. Et alors quoi? Tu crois quoi? Tu crois que son avis est le seul avis? Donc ça, c'est très très important de bien le comprendre. On parle de Chachmé Maghreb depuis 1000 ans. On parle d'une Torah extrêmement bien ancrée. Et on parle d'une Torah, je l'ai dit, et j'ai commencé par là, extrêmement sereine. Et comme elle est sereine, elle peut se permettre, un, d'avoir la halakha d'un côté et Torah Takabbalah de l'autre, où on est au sec et ça, mais on ne vient pas mélanger les troumim, on ne vient pas mélanger les différents secteurs de la halakha, ceci étant dit, les deux, et la Kabbalah et la halakha, sont retournés vers un point, et ce point, Zahaim. Vous allez me dire, c'est une évidence. Eh ben non, ce n'est pas une évidence. Exemple. Exemple Pachout de chez Pachout. Chez l'un des rabbins que l'on va évoquer, ben vous savez quoi, autant rentrer directement dans le vif du sujet avec nos personnages d'aujourd'hui. Eh bien, les amis, nos personnages d'aujourd'hui sont des personnages qui vont être les pierres angulaires du judaïsme de la toute fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, de la première moitié du XIXe siècle. Et on va commencer eh bien, par Chachmé Tounis. Chachmé Tounis, et non celui qui va nous intéresser, c'est quelqu'un qui était évidemment Rav, qui était un grand mefarèche de la Torah, un Dayan, qui a écrit énormément de livres, mais qui était aussi Echad Migdolea Mekoubalim. Ok? Alors de qui on parle? Eh bien, on parle de Rabbi Yehuda Najara. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda Najar, juste que vous compreniez, c'est celui qui a écrit Sefer Ohale Yehuda à la Midrash Tanaïm Shel HaSifri, Shvut Yehuda à la Mechilta, Limoudé Hashem, c'est un livre qu'on étudie dans toutes les yeshivot, ça veut dire Edman HaSot, quoi. C'est un des livres de base sur le Pilpoul, sur le Talmud. Moadé Hashem, sur les mitzvot, Alfei Yehuda, sur Masechet Shvuot en particulier. Mais Kitsour, on a ici un rabbin qui va laisser une trace énorme au niveau de sa grandeur de l'étude de la Torah, mais qui va nous montrer également quelle est la vision de la vie, la vision de la cohésion du peuple juif qui se retrouve dans la halakha, mais qui lui provient de la Kabbalah. Eh oui, c'est-à-dire, Mazé qui nous provient de la Kabbalah, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Bien les amis, lorsqu'on parle de Rabbi Yehuda Najara, eh bien, il faudra se rappeler d'une chose. À son époque, il y a dans les communautés une réalité qui se répand. Une réalité qui se répand, qui n'est pas bien, que personne ne pense que c'est bien, à Kolbe Seder, ok, ne venez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. À aucun moment, Rabbi Yehuda, il pense que c'est Beseder, personne ne pense que c'est Beseder, mais Zemayesh, où l'écrasante majorité des Katsavim, c'est-à-dire des bouchers, eh bien, ils vendaient leurs marchandises pendant Shabbat. Parce qu'ils ne vendaient pas que leurs marchandises aux Juifs, ils vendaient aussi aux Goïm. Donc, ils vendaient aussi pendant Shabbat. Business is business. Ouah, mais c'est assourd. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui vend la marchandise Shabbat, de la cacheroute, je ne peux pas lui acheter, même quand c'est mardi, je ne peux pas lui acheter à manger. Pourquoi? Quel est le rationnel? Pourquoi est-ce que quand vous allez dans une macolette ou une station essence, disons une station essence, vous allez en Israël dans une station essence qui est évidemment ouverte Shabbat, comment ça se fait quand toi tu vas faire le plein mardi, tu peux acheter un coca et, je sais pas moi, un paquet de Bisley? Comment c'est possible? Arrête, j'ai pas le droit d'acheter dans un truc qui n'est pas cachère et s'il est ouvert Shabbat, il n'est pas cachère. Comment ça se fait que j'ai le droit alors? Ben, j'ai le droit pour une raison très simple. Parce que je sais que la cacheroute du produit que j'achète ne dépend pas du magasin. Puisque j'achète un produit fermé qui n'a pas été fait par ce magasin-là, qui a été fait dans une autre entreprise qui, elle, respecte le Shabbat. Donc, je n'ai pas de problème de cacheroute sur mon coca ou sur mes Bisli. Par contre, est-ce que j'ai le droit d'acheter un croissant qui serait présenté pas dans un sachet? Je ne vous conseille pas d'acheter un croissant dans un sachet parce que c'est tout simplement pas bon. Mais un croissant comme ça, il y a plein dans toutes les stations essence, ils ont un truc café comme ça, machin, tu peux acheter des pâtisseries. Ça, c'est assaut. Parce que tu ne sais pas d'où elle vient, la pâtisserie. Et vu qu'il ouvre pendant Shabbat, c'est que la Torah et la Yirat Shamaim, ce n'est pas vraiment ce qu'il correspond. Donc comment je sais qu'il me dit oui, oui, c'est cachère, c'est cachère. Ou alors, lorsque vous avez des endroits, je ne sais pas moi, des magasins qui te disent on est ouvert Shabbat mais tous nos produits sont cachers. Se prendre de l'essence en semaine, bah écoute, si c'est pour boire l'essence, c'est un problème parce que c'est Issour de Oraita, Shel, Venishmartem, Meod, Annafshotechem. On n'a pas le droit de boire l'essence parce que c'est dangereux pour la santé. Donc, on n'a pas le droit de boire l'essence ni le lundi, ni le mardi, ni le mercredi, ni Shabbat. C'est-à-dire, donc, je ne vois pas pourquoi tu poses la question de savoir si on peut aller prendre de l'essence pendant la semaine. Quoi qu'il en soit, on parlait de cache-route là. Quoi qu'il en soit, quand tu as un magasin qui te dit tous nos produits sont cachers, mais on est ouvert Shabbat. Alors pourquoi tu n'y vas pas? Je ne parle pas de Shabbat, évidemment, je parle du lundi. Pourquoi tu n'y vas pas? Ben parce que tu sais pas, il te dit c'est cachère. Mais vu que la Torah, ce n'est pas ça qui le motive, peut-être que lorsque il va tout d'un coup être en manque de je ne sais pas quel produit, il ira vite fait chez son voisin non juif et il ira acheter prendre ce produit-là pour remplacer. Tu ne peux pas lui faire confiance. Chafché est là, à laquelle je ne vais pas répondre, parce qu'on ne fait pas un cours de halakha. Qu'est-ce qui se passe dans les enseignes de glace, où ce sont des réchatotes, où ce sont donc des grandes chaînes, où tu as le magasin de glace, il y en a un qui est ouvert Shabbat, un qui n'est pas ouvert Shabbat de la même enseigne, c'est exactement les mêmes produits, et le produit n'a pas été fait sur place, le produit est fait dans le Mif'al, dans l'usine de cette firme, et le produit est cachère. Est-ce que j'ai le droit d'aller acheter une glace dans cet endroit-là le mardi, alors que je sais qu'il est ouvert le Shabbat? C'est-à-dire qu'on sait tous à quel genre de marque de glace on fait référence. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas donner de réponse parce que ce n'est pas un cours de halakha et que je n'ai pas envie de m'attirer les foudres d'Internet. Donc, Rabbi Oudah Nadjara, on va revenir à notre histoire. Eh bien, évidemment qu'il ne peut pas permettre cette viande-là. Les mecs, ils vendent pendant le Shabbat, donc ça veut dire que la cache-route, c'est leur machou. Il va aller leur parler. Au lieu de commencer à dire, bon, mais puisque c'est comme ça, j'interdis à tout le monde de manger de leur viande et je vais ouvrir une cache-route à moi. Il va décider d'aller leur parler à chaque boucher un par un. Et il va réussir à leur faire changer qu'ils arrêtent de vendre pendant le Shabbat. Très bien. Le problème, c'est que ça n'a pas tenu très longtemps. Et semble-t-il qu'ils ont vu que leur revenu baissait et ils ont recommencé à vendre Shabbat. Et à ce moment-là, Rabbeinu Yaakov Nadjara, il écrit dans l'Imoudé Hachem 8 pages pour expliquer pourquoi ça serait quand même cachère leur viande. Et il dit la raison numéro 1, c'est que j'ai pas envie de créer de machlokot dans la communauté. Et j'ai envie que les juifs ils puissent rester ensemble. J'ai envie que les pères puissent manger avec leurs fils, que les amis puissent manger avec leurs amis. J'ai envie qu'on puisse garder une authenticité dans la communauté. Donc moi, le rabbin, je vais prendre sur moi d'aller vérifier leur viande à chaque fois, et on va être sommaire sur une chazaka. Alors évidemment, je ne dis pas que tous les rabbins sont d'accord avec ça, bien sûr, ce n'est pas la question. Il n'y a aucun rabbin ashkénaze qui va permettre un truc comme ça, par exemple. Mais on voit que ici la volonté profonde des Chachamim du Maghreb, c'est de garder la cohésion de la communauté, de garder l'unité du peuple juif et de garder la vie du peuple juif. Alors vous pouvez la tourner dans tous les sens que vous voulez. Et dire que des fois dans les communautés du Maghreb, on était un peu laxiste sur certaines pratiques de la halakha. Par exemple, j'ai entendu moi le témoignage du Rav, enfin, à propos du Rav Rachamim Naouri. Vous vous rappelez du Rav Naouri, un des derniers, Bemet, Chachmé Algir. Et c'était son fils qui racontait qu'un jour, Rav Rachamim, il marchait dans la rue, et il y a une femme, la soixantaine, hein, qui l'a vue dans la rue, elle a dit, Rabbi Rachamim, c'est toi qui m'as marié il y a 40 ans. Oh là là, comme je suis heureuse de te voir. Viens, je vais t'embrasser. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a avancé vers le rave. Elle l'a embrassé. Et qu'est-ce qu'il a fait le rave? Qu'est-ce qu'il aurait fait un rabbin actuel, slash Ashkenaz, slash Edot HaMizrach? Il aurait mis un coup de boule! Coup de boule, balayette! Rabbi Hamim, il est resté droit comme un poteau et il a attendu que ça se passe. Et il ne voulait pas lui faire honte, il ne voulait pas truc. Ah, non, qu'est-ce que je te disais? Elle m'a sauté dessus, elle m'a sauté dessus. Non, non, non. Alors on peut venir dire qu'il y a du laxisme. Ah, Kvoda Torah. Kvoda Torah, Kvoda Torah, messieurs, mesdames, dans le monde entier, dans le monde juif, en Europe, évidemment, dans le monde ashkénaze, c'est Barour, mais également Bechachmé Edot HaMizrach, également Bechachmé Paras, également Bechachmé Turquia, on a vu des mouvements au 18e et 19e siècle, voire même au 20e, de gens qui, juifs, hein, des mouvements qui ont poussé anti-Torah, anti-judaïsme. Pas réformisme hein, seulement, mais on a vu des mouvements mamash anti-Yahadout. Zéro mouvement réformé et anti-Yahadout en Afrique du Nord. Il y a toujours eu une symbiose, un respect, un amour pour la Torah, même quand on ne la pratiquait pas. Eh bien, c'est évident que c'est la chita des rabbanim d'Afrique du Nord qui est responsable de cette péléploïm, de cette réussite extraordinaire. Que quoi qu'il arrive, en Afrique du Nord, la Torah et le peuple juif, c'est echad. Même si on ne respecte pas. Mais ça, cette chita de Torah Trahim, de Torah sereine, qu'on ne s'excite pas. Alors, observez, Baruch, que le Rav Rahamim Hanaoui n'était pas d'accord, il khatit avec ce qu'elle a fait cette femme. C'est pas choute. Mais quoi, je vais faire un scandale? Zébidio Kainian. Zébidio Kainian. Agave, si on est dans les exemples, je ne sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, on donne plein d'exemples, mais parce que les Chachamim du Maghreb, on n'en parle pas assez, malade, saute. Prenez l'exemple de Rabbi Shlomo Amar. Rav Rachid Yerushalayim. Alors, on sait tous qu'il est l'élève du Rav Ovadia. Et c'est vrai que très, 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 très souvent, il a renié son côté marocain. Et très souvent, il est en porte-à-faux avec les rabbanim d'Afrique du Nord par rapport à sa psika de halakha qui est du style du Rav Ovadia et pas du style des Chachmé Marocco. Aval. Témoignage, mais d'où Rishon. Le grand rabbin de Lisbonne, il y a 10 ans, un truc comme ça, la communauté de laquelle était le rabbin fêtait ses 200 ans. Ils ont fait un jubilé, machin, ils ont invité le Rav Amar en tant qu'invité d'honneur. Il était grand rabbin d'Israël encore à l'époque, je crois, ben, en tant qu'invité d'honneur. Il est venu. Le Rav de la communauté, et je l'ai entendu, c'est lui qui nous a raconté l'histoire. Le Rav de la communauté, il vient le chercher à l'aéroport. Il dit, et quand il a, il descend de l'avion, il vient le chercher, il dit, ah, Rav, je suis désolé. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, on avait prévu, il y a prévu toute une cérémonie pour votre arrivée, tout ça, pour le bicentenaire. La communauté avait prévu une chorale. Et il m'avait assuré que la chorale, ce serait que des hommes. Et j'arrive ce matin, juste avant de venir à l'aéroport vous chercher, et je vois qu'en fait, les dernières répétitions de la chorale, c'est pas que des hommes, il y a aussi des femmes qui vont chanter, et il y a même des femmes qui vont faire des solos. Je suis désolé. Je savais pas. Vraiment. Et le Rav Amar, il lui dit, t'inquiète pas, yebeseder. Et bon, ils arrivent, machin. Et c'est pas comme si le Rav Amar, il avait pu se cacher derrière un mur. Ils l'ont mis sur une chaise, tout seul, devant la bima, et tous les autres étaient assis à côté. Ça veut dire, genre, il était au milieu de la Sina, tu pouvais pas te cacher. Il y avait deux rabbanim Chabad, qui étaient du Bet Chabad, qui étaient là aussi à la cérémonie. Quand les femmes, elles se sont mises à chanter, ils se sont cachés sous la table et ils ont fait comme ça. Parce qu'on n'a pas le droit d'écouter une femme chanter. Et Rabbi Shlomo Amar, il s'est mis à chanter avec les femmes et le solo. Maintenant, tous ceux qui ont entendu parler, slash chanter le Rav Amar, c'est que c'est peut-être un très grand Talmid Chacham, mais c'est pas un grand chanteur. C'est-à-dire, et il a chanté très mal, mais il a chanté. Et toute l'assistance a applaudi, a dit ah, comme c'est mignon, comme c'est chamoud. Et après la cérémonie, après tout ça, le rave de la synagogue, il est venu voir le Rav Amar, il lui a demandé, Rav Ma Yasham. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je fasse un scandale, que je me lève et que je dise que c'est assourd? Alors j'ai chanté avec elle, comme ça je me suis concentré sur ma voix à moi et pas sur leur voix à elle. Et tout le monde a trouvé ça mignon. Et le Rav lui dit, Aval zelo ashita shel Rav Ovadia. Et a dit, Nachon, Zeshitat Chachmé Maroko. Ils disent, Nachon, c'est vrai que ce n'était pas comme ça que le Rav Ovadia il aurait agi, mais c'était la Shita des Chachamim du Maroc. Donc, les amis, c'est de ça qu'on parle quand on parle de Chachmé Maghreb. Alors, on a parlé de Rabbi Yehuda Najara, et il faut savoir qu'il y a des grands, 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 grands noms, comme par exemple Rabbi Chaim Palachi, dont on a déjà parlé la semaine dernière, qui disait, Harav Amofet Bedorenu, Moreinu Harav Limudei Hashem Rabbi Yaakov Najara. Donc on parle de gens qui sont reconnus dans tout le monde juif comme étant des Géonim, Pashut. Des Géonim. Alors, un autre Talmid Chacham énorme de cette époque-là, et là, on a parlé un petit peu beaucoup d'Algérie, eh bien, on parle de Rabbi Nathan Jayan. Rabbi Nathan Jayan, lui aussi, c'est exactement les mêmes années que Rabbi Yehuda Najara. Rabbi Nathan Jayan, ou Mekoubal, Verosh Yeshiva, Betlemsen. Les amis, quand on parle de ce bonhomme-là, il a tout fait. Il a tout fait. Il est passé d'abord par tous les métiers manuels, alors qu'il vient d'une famille de Talmidei Chachamim. Il vient d'une famille de rabbins et il sera rabbin, c'est pas le débat. Seulement, il demande à ses parents de lui apprendre d'abord les métiers manuels. Pourquoi? Alors, un, parce que halakhiquement parlant, il faut un métier. Ça, tous les rabbins le savaient. Mais au-delà de ça, parce qu'il dit, comment tu veux que je comprenne ma communauté si je ne comprends pas quel est leur quotidien? Et les amis, vous connaissez beaucoup de rabbins aujourd'hui qui sortent de la yeshiva et qui connaissent autre chose que les bouquins? C'est une Torah Trahim, Pashut Torah Trahim. Et finalement, il devient le rav de la communauté de Tlemcen. Et c'est ce que je te dis. Zé à Kabbalah! Zé à Kabbalah! Qu'est-ce qui leur permet d'avoir une halakha tellement sereine et tellement, on va dire, métira? C'est parce que ils sont tous Chachmé à Kabbalah. Ils ne disent pas dans leur psychat halakha qu'on est possède qu'al pi à Kabbalah. Mais tout ce qu'ils mettent dans leur halakha de Matiranout, de Chibour Lachaim, c'est al pi à Kabbalah. Par exemple, on parle de Rabbi Yehuda Najara, celui qui va devenir son Talmid Raver, mais qui est un petit peu plus jeune que lui, on a parlé de lui déjà, c'est un peu plus vieux, c'est-à-dire que lui, c'est Maran Achida. Maran Achida, Rabotai. Mais c'est Rak Kabbalah. Nahon, Zerat Kabbalah. C'est de cela dont on parle, Rabotai. Alors, Rabbi Nathan, quand il devient Rosh Yeshiva à Tlemcen, eh bien, il va imposer, par exemple, le Limoud à Kabbalah. Dans la Yeshiva. On impose le Limoud à Kabbalah dans la Yeshiva, évidemment, pour ceux qui ont reçu la bracha du Rav. C'est-à-dire, c'est pas Kabbalah Center, on va pas commencer à venir et tout le monde étudie la Kabbalah et c'est parti. Non, mais il dit ça fait partie de la formation de l'étude de Torah. Même si après dans la psika on va faire la halakha d'un côté, la Kabbalah de l'autre, tu peux pas être possek halakha si tu connais pas la Kabbalah. Mais c'est une tfissat olam, rabotai. C'est de ça que je te parle. Je te parle d'une Torah qui est complètement Torah Trahim, qui est complètement Torah Achat. Lui aussi, il va écrire énormément alors pas de Sfarim, mais de Pisqué Din et de Chidouché Torah. Alors, c'est très, très, très fort, parce que Chidouché Torah de Rabbi Nathan, ils sont tous Alpi à Kabbalah, et Pisqué Din de Rabbi Nathan, ils sont tous Bli Kabbalah. Donc, tu vois vraiment cette dualité, et il est le digne descendant, en l'occurrence, si on doit parler un petit peu de ses ancêtres. Et Rabbi Nathan Jayan, il est le descendant de Beth Douran, de Rabbeinu Tzemach Douran, du 14e siècle, Migdolé HaMekoubalim, évidemment. Alors, on a parlé de la Tunisie, on a parlé de l'Algérie, et je sens déjà les Marocains bouillir sur leurs chaises. Quoi? On n'avait pas de Chachamim au Maroc? De quoi tu me parles? Bon, calmez-vous, calmez-vous! Ne m'attaquez pas, c'est pas ça, ça se fait pas! Si on parle du Maroc, à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle, bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est qui le Chacham? C'est qui le Chacham? Nous? Allez, Vous le dites, même si vos micros sont fermés, vous le dites, vous le connaissez, non? Rabbi Haïm Pinto. Ah oui, Pachout. Eh oui, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, Mara de Atra au Maroc, c'est Rabbi Haïm Pinto. Tous les descendants Pinto, vous les connaissez aujourd'hui, évidemment. Rabbi Haïm Pinto, c'est le Mara de Atra. Il est Gdolador. Les coulées Alma là-bas, que ce soit, il va naître à Agadir, mais il va surtout agir à Mogador. Les amis, de quoi on est en train de parler? Il est Av Bet Din Arabani, il a même pas 30 ans. Bon, mais ça, c'est pas choute. Mais il est surtout reconnu comme étant, il va avoir une correspondance avec Chachmei HaMekoubalim, Be'eretz Israël. Et donc, c'est ça qui va le faire connaître à l'extérieur du Maroc. Parce qu'encore une fois, à l'intérieur du Maroc, il n'y a pas débat, c'est le patron. Mais qu'est-ce qui va faire que sa renommée va grandir, 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 qu'aujourd'hui, Ein Oririn al-Rabbi Chaim Pinto? Eh bien, c'est sa capacité. Ma kesher Rabbi Chaim Ben Attar, Rabotai. Rabbi Chaim Ben Attar. Vadaï ze gdol ha-mekoubalim. Aval Rabbi Chaim Ben Attar, on en a parlé il y a à peu près 2 mois. Puisque Rabbi Chaim Ben Attar, c'est le 17e siècle. Oy vaï, voy. Un jour, il y a quelqu'un qui avait dit, ce serait bien quand même que dans ce cours-là, on mette par écrit, on fasse un tableau de tous les chachamim qu'on a évoqués, pour que n'arrive pas ce genre de problématique. C'est une vraie bonne idée, mais est-ce qu'on n'attendrait pas quand même la fin de notre cours pour faire ce tableau récapitulatif? David lève les épaules. Et il a raison. Mais je vais vous dire quel est le vrai problème. Moi, je veux bien le faire, mais j'ai besoin d'un truc que je n'ai pas. C'est l'enregistrement des autres cours, des anciens. Pourquoi? Parce que des fois, je ne me rappelle plus exactement de qui j'ai parlé, de qui j'ai pas parlé. Rahmanal
Alors, c'est
Nistan.
dans votre mail maintenant, là, tout de suite.
Ah ben voilà, tu vois. Donc maintenant, j'ai plus le choix, il va falloir que je le fasse, ce tableau. Tav, Bekitsour, quoi qu'il en soit. Donc, non, Rabbi Chaim Ben Attar, on a déjà parlé de lui. Il y a tout un cours sur lui qui a été désigné. C'est comme Anita qui m'a dit la semaine dernière, tu as vaguement évoqué Rabbi Nachman de Breslav, pourquoi tu n'en as pas parlé plus? J'ai dit, mais j'ai fait un cours entier d'1 heure sur Rabbi Nachman de Breslav et sa Torah. Elle a dit, ah bon, je n'étais pas là. Bon, voilà. Bekitsour, Rabbi Chaim Pinto, Michachmé Marocco. On a parlé d'un autre Chacham la semaine dernière, qui est un tout petit peu plus, un tout petit peu plus récent que Rabbi Chaim, mais c'est pas plus mal de s'en rappeler un petit peu. On avait parlé de Baal HaTzuf Dvash. Baal HaTzuf Dvash, vous vous rappelez de lui? Quelqu'un qui, alors, il est Chachmé Marocco, certes, mais il va pas vraiment agir au Maroc, puisqu'il va très très rapidement arriver en Eretz Israël. Et donc, comme il va arriver en Eretz Israël, et c'est de là qu'il va être, la majorité de sa péilout sera en Eretz Israël, alors on a plus de tendance à le considérer comme étant un chacham Eretz Israéli plutôt qu'un chacham marocain. Mais zélo moride, quoi. Donc, on a une Torah, Beyahadut Marocco, qui est énorme. Donc, on a parlé tout à l'heure de la dynastie, c'est-à-dire de la dynastie des Messas, Torah Ta'abir Lev. Le Rabbi Chaim Pinto va montrer toute sa grandeur de Mekoubal dans, il y a une trentaine de piyoutim écrits par Rabbi Chaim Pinto. Et on l'a déjà évoqué il y a très longtemps, mais Torah Tapiyoutim, c'est la première version de mise par écrit de Torah Takabbalah. Torah Tapiyoutim, non, pas la première version, je dis n'importe quoi parce qu'il y a le Zohar d'abord, mais on a vu que les piyoutim, c'était vraiment une façon de dévoiler des secrets de Torah. Donc, ces piyoutim, c'est plus que des sfarim. Il ne va pas écrire des sfarim de Kabbalah, mais dans ces piyoutim, on retrouve tout l'ensemble de sa Torah. Rabotai, c'est une porte ouverte. Chachmé Maroc, Chachmé Tunis, Chachmé Algérie. Enfin, Algérie, Maroc et Tunisie. C'est une vraie porte ouverte. Pourquoi? Parce que plus on va arriver vers le 19e siècle, et plus l'enseignement, on va s'enfoncer dans le 19e siècle, et plus l'enseignement de la Kabbalah va être quelque chose qui va prendre une place prépondérante dans ces régions du monde. Peut-être ont-ils véritablement compris, et c'est pas peut-être, c'est sûr, que la Géoula avançait et qu'on avait besoin de ces secrets-là, comme l'écrira plus tard le Rav Kook dans le livre de Horoth, dans la fin du chapitre qui s'appelle Issourim Memarkin dans le livre de Horoth, où il dit que plus l'époque avance dans la Géoula et plus on a besoin des secrets de la Torah si on veut que la Torah puisse avoir une vraie influence dans notre vie. Et donc, eh bien, on va voir à la fin du 19e siècle et au 20e siècle, Bichlal, que Chachmé Maghreb vont être de plus en plus tournés vers Torah Takabala. Quand on arrivera à Baba Salé, évidemment, ça sera exacerbé énormément. Voilà, une Torah, j'ai envie de dire, un petit peu trop méconnue, et surtout, et c'est là que ça va être ma phrase de conclusion, des fois, le problème qu'on a avec ce qu'on raconte sur les Chachmé Marocco, enfin Marocco, Algérie, Tunisie, c'est qu'on raconte sur eux plein d'histoires. Et c'est pas de leur faute à eux, c'est de notre faute à nous, qu'on n'étudie pas leur Torah. Et qu'on se contente de dire ils sont grands parce qu'il y a plein d'histoires sur eux. Or, Zelo Nachon, ils sont grands parce qu'ils ont une Torah extraordinaire et gigantesque. Et comme ils sont grands et qu'ils ont une Torah extraordinaire et gigantesque, alors il leur est arrivé plein d'histoires. Et donc, je pense que c'est un vrai travail qu'on a tous à faire, et particulièrement les gens qui sont issus de ces communautés-là, d'essayer de retrouver, de réenseigner cette Torah-là. Il y a un rave qui fait ça en ce moment, qui s'appelle le rave Raphaël Delouya. Mais bon, il le fait de manière. Il est devenu canaille, le rave Delouya, je lui ai déjà dit. Il est devenu canaille sur Chachmé Marocco et Chachmé Marav Bichlal. Genre. Tous les autres rabbins, c'est de la gnognotte, il n'y a que nous. Ben, tu peux pas obligé de passer d'un extrême à l'autre non plus. Mais réenseigner cette Torah-là en profondeur, se rattacher à l'enseignement de ces rabbins et pas seulement à leurs histoires, ben c'est fantastique. Par exemple, moi, j'ai cherché. Bémet, j'ai cherché et j'ai pas trouvé. Mais j'aimerais que quelqu'un m'aide à trouver des enseignements sur Rabbeinu Chaya Taïeb Lomet. Je m'en fiche de l'histoire. Mais mec, je m'en fiche de l'histoire. En vrai, je m'en fiche des histoires des rabbins. Je veux leur Torah, je veux leur enseignement. Donc, si quelqu'un m'écoute et du haut de la Tunisie peut nous envoyer des enseignements, je sais pas, des écrits, ou alors même des traditions, mais d'enseignement, pas que d'histoire, eh bien, je suis tout à fait preneur. Et voilà. Et c'est le moment où vous pouvez rallumer vos micros.
Ah, moi j'ai une question.
Vas-y, David.
Ah, parce que toutes ces histoires, c'est pas un peu, j'allais dire, c'est mon côté Ashkenaz qui parle, hein, un peu dangereux. C'est-à-dire que les gens maintenant cherchent à étudier la Kabbalah, certains, pour pouvoir réaliser des choses qui sont en dehors de la nature, entre guillemets. Et c'est comme quelqu'un qui fait du chesed et qui le dit à tout le monde, un peu comme ça. Non?
Regarde, si on veut être vrai dans la Torah, dans notre relation à Dieu, eh ben, on doit comprendre que hocus pocus, zelo nachon. Parce que même si ça marche, zelo echad, zelo amiti, c'est vrai que quand tu prends n'importe quel magicien, il va pouvoir te dire la phrase abracadabra. Et quand tu vas aller marquer abracadabra sur Wikipédia, on va t'expliquer que abracadabra, ça vient de l'hébreu ou de l'araméen. Adebra kedabra ou bara kedabra ou bara avec la parole. Il a créé avec la parole. Et donc, la Kabbalah Maasit, c'est je fais des tsérouphim, je fais des trucs, machin, et ça crée des choses. La semaine dernière, Echad mi gdolei ha-mekoubalim de notre génération, dont on parlera beaucoup plus tard, Talmido shel Rav Ashlag, le Rav Mordechai Gottlieb, il est sorti en guerre contre les incantations. Il dit, en ce moment, la guerre, tout ça, machin, il y a plein de gens qui sont en train de faire des incantations de Tehilim, il faut dire le Tehilim comme ci, le Tehilim comme ça, et puis il faut se réveiller à 4h37 du matin parce que c'est l'alignement des planètes, et c'est à ce moment-là que Yesh Rachamim Mugbarim Bashamaim, et c'est à ce moment-là qu'il faut dire trois fois Lechem Ichoud, blablabli, blablabloum. Et les gens, ils font ça parce qu'ils ont peur, et qu'il y a des rabbins qui surfent sur cette peur-là, et qui te disent, si tu dis cette incantation-là, ou tu fais cette noix des mains au bon moment, alors ça va t'apporter la joie, la félicité, l'allégresse et la folie. Le Rav Gottlieb, il a dit c'est des bêtises complètes, c'est pas du tout le juif, c'est pas du tout le judaïsme. Le judaïsme, c'est Ve'ahavta lerecha kamocha. Le judaïsme, c'est Tikkun Hamidot. Le judaïsme, c'est ça. C'est pas des formules magiques. Donc ça, c'est pashout. Dans ma synagogue, depuis que le grand rabbinat d'Israël, il a décidé qu'il fallait rajouter des Tehillim pour la libération de nos otages et la réussite de nos soldats, donc ils ont dit il faut rajouter Essa Ena El Harim, Ve'mima Amakim à la fin de la Tfila. Il a fait, mais la première fois qu'on a fait ça, eh bien, j'ai tout d'abord expliqué qu'est-ce que c'était que ces deux Tehillim. On a expliqué les versets. Et après, on les a dit. Bon, je réexplique pas à chaque fois, hein, mais ça veut dire, ce n'est pas une formule magique. Bon, en l'occurrence, ces deux Tehillim sont assez faciles à comprendre. Mais ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas ouf. C'est-à-dire, donc voilà ce que je réponds aux gens qui se rattachent à la magie.
Il y a d'autres questions. Il reste 5 minutes au cours. Il y a une question alors, dans le chat
Ouais.
de Yonatan.
T'as vu? Attends, attends.
Valaïmi
Attends.
Alors, quels deux pratines de est-ce que vous avez dit à la tfila, à la fin de la tfila? Quels sont les deux pratines?
Shira Maalot
Ezemispar.
et Saina El Harim. Ezemispar. Ezemispar. Une question. Et quel mispar?
132.
Combien?
132.
132?
Baphalès. 131, je parle.
Bon. Eh bien, j'ai eu la
131,
moyenne.
ouais. 130, 130.
Et l'autre?
Imam
Et
Hakim.
Mima Makim aussi. D'accord.
130, Imam Hakim
C'est
et
quoi
131.
la question du chat? Je ne vois pas le chat, je ne sais pas pourquoi.
Avalaem yesh, Mishi, Lomet Kabbalah, Maasit, Yachol le Kayem, Otan, Gam Kasher, ou Loraoui, Erze, Yachol le Ot.
Ah! Comment ça se fait que ça marche?
C'est pas moi qui pose la
S'il y
question,
a
hein.
quelqu'un qui fait de la Kabbalah Maasit et qu'il n'est pas Raoui, comment ça se fait que ça peut marcher? Ah, parce que c'est vrai qu'il y a des forces dans ce monde. Comme y a des gens qui sont capables d'utiliser des forces au niveau physique et il y a des gens qui sont capables d'utiliser des forces au niveau métaphysique. Donc, si tu as appris comment maîtriser ces forces-là, tu peux les utiliser. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que tu vas faire le mal avec? Ça existe. Il y a des forces qui sont tournées vers le négatif. Pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a mis ses forces dans le monde? Ça, c'est son problème. Parce qu'il a des raisons pour lesquelles il veut utiliser
130, c'est
aussi
moi j'ai une
cela.
question.
Oui, monsieur.
Moi j'ai une question. Ces gens-là qui font de la Kabbalah entre guillemets, ça leur est tombé dessus. Ils n'ont jamais cherché à faire ça.
C'est-à-dire?
Veut dire qu'ils étudient la Torah, ils étudient la Kabbalah. Et Ershou, ils ont eu un dévoilement comme ça. Hein, et ils ont réussi à faire des choses qui sont en dehors de la nature, mais ils n'ont jamais cherché à le faire Bechavana. D'accord?
Je sais pas, d'abord je sais pas, peut-être, peut-être que pas, mais dans tous les cas, ça veut dire que semble-t-il, ils n'ont pas de lien avec leur rave, parce que sinon ils auraient tout de suite pris contact avec leur rave et leur rave leur aurait dit, calme-toi mon ami. Et encore une fois, la sérénité, c'est pas shoot. C'est pas shoot. J'ai dévoilé un nouveau truc dans la Torah, à qui j'en parle? Bah, à mon maître. Et lui va me dire, Zetov, Zera, Zetafsik, Zelo, Zeken. C'est pas chouette. Pourquoi calmer les forces? Pourquoi calmer les forces? Non,
Non,
je
la
reste
question,
focalisé.
elle est en entier, c'est quand tu as ces forces, tu sais si c'est pour le bien ou le mal, pourquoi calmer les forces?
Mais des fois, tu sais pas. Des fois, tu te trompes, mon
Non.
ami. Des fois, on se trompe. On a découvert des forces incroyables. On croit qu'on les utilise pour le bien. En fait, on les utilise pour le mal. C'est pas
Non,
chouette.
je suis pas d'accord.
Ah, ok.
Non, on sait quand on fait le bien, on sait quand on fait le mal, bien sûr.
Ah bon? Ah bon?
Ben,
Ça va?
quand tu as une force et que tu as un homme et tu as beaucoup de force, tu sais quand tu donnes un coup de poing et tu sais quand tu lui mets un clou dans un mur. C'est pareil.
Non, c'est pas du tout pareil. Parce que même
Pourquoi?
quand tu donnes. Enfin, je vais vous expliquer. Parce que même quand tu donnes un coup dans un mur, est-ce que tu as vu ce qu'il y avait derrière le mur?
Ben oui, si tu prends un
Ben
certain
non.
matériau,
Ben
tu
non.
prends pas
Ben...
le même. Sinon, tu vas
Non, mais
te
c'est
faire
pas la question.
mal
Non,
et
mais
tu
je
vas
parle pas
faire
du
mal
matériau.
au mur.
Non, mais je parle pas du matériau. Je parle pas du matériau. Je dis simplement que j'ai découvert que j'avais la force.
Voilà, j'entends plus rien. Tu vois, ils sont pas d'accord, les forces.
J'ai découvert que j'avais une force. C'est bizarre. Allô, allô?
Micros.
Veuillez
Encore?
fermer vos micros si vous ne posez pas de questions, s'il vous plaît.
Voilà.
Ça
Je
perturbe.
voudrais poser une question.
Attendez. Non. Allô?
Rafi Jeanne.
Ah, bah, bah. Enfin, Madame Sénior, vous avez un problème dans votre micro. Quand vous voulez,
C'est
ça
les
peut
forces, c'est les
remonter.
forces, c'est les forces.
Bravo.
Bekitsour, quand je dis que tu sais pas ce qu'il y a derrière le mur. J'ai trouvé que j'avais la force de détruire un mur. Je vais le détruire, ce mur. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que je vois qu'il est en train de faire de l'ombre à la lecture de la Torah. Et le Baal Koré, il a besoin de lumière. Donc, je détruis le mur. Mais est-ce que je me suis rendu compte que ce mur, il était porteur d'un autre étage ou d'un autre truc derrière, qu'il amenait quelque chose aussi? C'est-à-dire que, je prends l'exemple du mur de manière assez vulgaire, mais de dire que j'utilise les forces au niveau métaphysique qui m'ont été données, je ne sais pas ce que ça va enclencher comme chose. Et donc, je pense qu'il y a une grande, grande, grande humilité à avoir. Dans tous les cas, d'après le judaïsme, on n'a quand même pas vu que c'était un enseignement générique que d'utiliser la Kabbalah Maasit pour régler des problèmes. Maintenant, je n'ai pas les forces dont vous parlez, donc je ne sais pas.
Alors, Fizo, il y avait une dernière question de Léa Sénéor, si son micro fonctionne. Léa, vous pouvez poser votre question. Je pense que vous avez, il y a un petit problème dans votre micro. Vous envoyez-moi votre question par WhatsApp et moi je la transmettrai au Rav. Avec grand plaisir. Rav, il est 10h. Boker Tov, Shavua Tov, Toda Rabba.